RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45. Info Soir, c'est avec vous, Léo Fichou.
Une justice coloniale, un assassinat politique. Les mots forts de Jacques Lallier, président de la province des Îles, après l'annonce de sa condamnation en appel ce matin. Le Congrès vote une aide pour les ménages les plus modestes. Le gouvernement prendra en charge jusqu'à 5 000 francs de leur facture d'électricité pendant 4 mois ou alors 20 000 francs d'arriéré. Deux tentatives de vol la nuit dernière au Mont d'Or, la première à Saint-Michel, la seconde au Vallon d'Or. Une personne blessée et deux individus interpellés. Du côté de Dumbéa, le dispositif participation citoyenne mis en place pour prévenir la délinquance et les cambriolages au sein de la commune. Les femmes ont leur place dans le monde entrepreneurial. Le Nouméa Women's Forum a ouvert ses portes ce matin. C'est la quatrième édition du NWF. Et puis du sport et du football, qui de l'AS Magenta ou d'Horizon Passau remportera le trophée du Grand Nouméa? La réponse ce soir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et comme je le disais en titre, Jacques Lallier condamné à 2 ans d'inéligibilité, un coup dur pour le président de la province des Îles qui était jugé en appel pour une affaire de favoritisme. Elisabeth Noir.
L'effet remonte à 2020, il est reproché à Jacques Lallier l'attribution d'un contrat estimé à 28 millions de francs pour moderniser le système informatique de la province des Îles à une entreprise qui n'était ni la moins chère, ni la plus compétente. Le président de la province avait déjà été condamné pour favoritisme en première instance en février dernier. Il avait écopé d'une peine de 6 mois de prison avec sursis, 300 000 francs d'amende et 1 an d'inéligibilité. Il avait fait appel du jugement et le 5 novembre dernier, l'avocat général avait requis une aggravation des peines, soit 1 an de prison avec sursis, 20 millions de francs d'amende et toujours 1 an d'inéligibilité. La décision était rendue aujourd'hui et elle est plus sévère que les réquisitions du parquet. Jacques Lallier est en effet condamné à 1 an de prison avec sursis, 1 million de francs d'amende, mais surtout 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Cela signifie que la sanction s'applique même si l'élu se pourvoit en cassation. Jacques Lallier a d'ailleurs immédiatement tiré les conséquences de ce jugement en disant au revoir à ses collègues du Congrès ce matin en intervenant pendant la séance publique.
Allez-y alors, rapidement, monsieur Lallier.
Oui, non, juste pour vous dire, je ne serai pas en reprise. Je venais saluer l'Assemblée puisque la justice coloniale m'a baffé. Enfin, la justice coloniale. Donc voilà, je risque de ne pas être là demain ou après-demain. Encore une fois, bon courage.
Le président de la province des Îles, visiblement touché par ce jugement qui le prive de ses mandats et qui pourrait lui interdire de se présenter lors des prochaines élections provinciales. Il parle d'ailleurs d'un assassinat politique.
C'est un assassinat politique. Ça note toujours le caractère un peu colonial de cette justice, parce que j'ai l'impression qu'on fait porter tous les maux des événements et tout ça, le climat. Et donc, je regrette pour la République, parce que je ne méritais pas ça. Ils m'ont même fait une application provisoire, et donc j'attends l'arrêté du haut-commissaire. En plus, comme on a des rendez-vous, l'Assemblée que j'ai déjà convoquée, c'est un peu malvenu. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à foutre de nous, en tout cas de la province des Îles. Et donc, il y a des fautes qui ont été plus importantes, plus graves que ça, et on fait porter quelque chose de minime. 2 ans d'inéligibilité, mais ils exagèrent un peu quand même. Je disais tout à l'heure que ce n'est plus la justice coloniale, c'est la justice coloniale. C'est même ridicule, la sanction qui m'est donnée par rapport à l'erreur et puis par rapport à la légitimité d'une commission d'appel d'offres.
Jacques Lallier attend l'arrêté du haut-commissaire lui signifiant son inéligibilité. C'est à ce moment-là qu'il sera démis de ses fonctions de président de l'Assemblée de la province des Îles et de ses mandats électifs. La peine sera exécutoire, mais il devrait se pourvoir en cassation.
Au Congrès, une aide au paiement de l'électricité pour les ménages les plus modestes. Elle a été adoptée ce matin par les élus donc du Congrès, Elisabeth.
Cette aide concerne les personnes au chômage total, qu'ils soient spécifiques ou de droit commun. 2 modalités sont prévues. Le gouvernement prendra en charge soit jusqu'à 5 000 francs de leur facture d'électricité pendant 4 mois, soit jusqu'à 20 000 francs d'arriéré. La discussion a été très technique dans l'hémicycle du boulevard Vauban pour définir qui devait être les bénéficiaires. Le gouvernement estime qu'il pourrait être 10 000 à la fin de l'année, ce qui représenterait une enveloppe de 200 millions de francs. Les groupes indépendantistes et Calédonie Ensemble ont soutenu le projet de délibération qui a été adopté par 29 voix pour et 14 abstentions. Pour Calédonie Ensemble, Philippe Dunoyer a défendu plusieurs amendements.
On peut saluer la démarche. J'ai souhaité être un peu plus précis sur les personnes susceptibles d'en bénéficier parce que tel que le texte était présenté, il était à mon avis un peu large et il ne permettait pas, par exemple, d'exclure des gens qui ont retrouvé, heureusement, un travail depuis et qui ne sont plus au chômage total. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, cette aide existe. Donc c'est une petite aide dans un océan de problèmes, mais c'est une aide qu'il faut soutenir. Je crains malheureusement que ces 10 000 personnes estimées à la fin de l'année ne soient bien plus. Or, si on multiplie 20 000 par 10 000 personnes, on est aux 200 millions de l'enveloppe. Mais si le chiffre augmente, on va la dépasser. Donc, le gouvernement nous a dit que si les crédits étaient insuffisants, on reviendrait devant le Congrès et on essaierait de voir comment compléter ou mettre un terme à cette aide. Parce qu'encore une fois, il faut verser une aide quand on a les moyens de la verser. Il ne faut pas la promettre si on ne peut pas.
De leur côté, les groupes loyalistes et rassemblements se sont abstenus. Ils regrettent une aide qui s'apparente à de l'assistanat. Françoise Suvet, chef du groupe loyaliste.
Aujourd'hui, la mesure est inadaptée au contexte actuel. Nous, notre groupe s'est abstenu et on reste cohérent avec la décision qu'on a prise lors de la décision modificative budgétaire en août 2024, qui est chaque franc obtenu, chaque franc que nous avons, doit être absolument réinjecté dans l'économie. Donc c'est sur l'investissement qu'on doit miser parce que seul le retour massif à l'emploi permettra de nous relever de la crise et rassurer les Calédoniens. C'est de l'assistanat, même si effectivement c'est une mesure d'aide, mais c'est de l'assistanat et ça ne constitue pas une réponse durable au problème des Calédoniens aujourd'hui.
Et à la suite de l'adoption de cette délibération, le gouvernement précise dans un communiqué que les personnes éligibles au dispositif d'aide énergie exceptionnelle sont les bénéficiaires du dispositif de chômage total de droit commun ayant été indemnisés au moins une fois au titre des mois de mai à décembre 2024 et les bénéficiaires du dispositif de chômage total spécifique aux exactions débutées en mai 2024 ayant été indemnisés au moins une fois au titre des mois de mai à décembre 2024. Il indique que les personnes éligibles seront contactées au début du mois de décembre par le gouvernement et qu'elles seront ensuite invitées à effectuer leur demande d'aide, soit en ligne, sur un portail internet dédié, soit dans une agence de leur distributeur d'électricité. Le gouvernement ajoute qu'en plus de cette mesure d'urgence ponctuelle liée à la crise conjoncturelle que traverse la Calédonie, il continue à travailler en partenariat avec les provinces à la mise en place d'un dispositif plus pérenne d'aide au paiement des factures d'électricité pour les personnes en situation de précarité. La mise en place de ce système est envisagée courant 2025.
Et les élus du Congrès ont adopté ce matin une autre délibération qui proroge de 6 mois les certifications d'immatriculation des véhicules soumis à visite technique périodique. Une décision prise en raison de la destruction des infrastructures du centre de contrôle technique de la DI3T à Rivière-Salée. Le texte a été adopté à l'unanimité.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Justice aux assises demain et jeudi, les jurés devront se pencher sur une affaire de meurtre en appel. L'affaire devait initialement être jugée ce lundi, mais faute de jurés suffisants, elle a été reportée à demain. L'accusé a été condamné l'année dernière à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son ami d'enfance dans la tribu de Newa à Wailou. Le 4 juillet 2021, il lui a tiré dans le dos pour un motif qui reste encore flou. 2 tentatives de vol au Mont d'Or la nuit dernière, une première vers 1h du matin dans le quartier de Tabor. Des individus se sont introduits sur une propriété privée et ont tenté de voler un véhicule. 3 patrouilles de gendarmerie sont rapidement intervenues mais ont subi des jets de pierre. Le propriétaire du véhicule a été touché à la tête par un projectile, a été transporté au Medipol. Les autorités ont annoncé un renforcement donc de leur présence dans ce secteur sensible, ce qui a permis d'interpeller 2 personnes ce matin. Et puis enfin, une seconde intervention du côté du Vallon d'Or. Vers 2h30, un homme a été surpris en plein cambriolage par le propriétaire. Une altercation a éclaté et pour s'échapper, l'individu a dû briser une baie vitrée. Des traces de sang ont été retrouvées sur place et devraient permettre de l'identifier. 2 enquêtes sont désormais en cours. Et à Dumbéa, le dispositif participation citoyenne relancé par la ville en partenariat avec l'État et la gendarmerie. Objectif, prévenir la délinquance et les cambriolages au sein de la commune. Jean-François Baudin.
Lancé pour la première fois en 2017 dans des quartiers tests, ce dispositif est cette fois-ci étendu à l'ensemble de la commune de Dumbéa. Cette participation citoyenne est à différencier des voisins vigilants, explique le maire de Dumbéa, Johan Le Courrieux.
Là, tenant compte du contexte et aussi la volonté de conjuguer l'ensemble des interventions entre la gendarmerie, la police municipale et aussi les habitants de quartier. Donc la volonté, c'était de remettre en fonction ce dispositif de participation citoyenne sur l'ensemble de la commune. Ce n'est pas non plus un dispositif de sécurité, c'est un dispositif de veille collabore avec des forces de police et de gendarmerie. Et donc, ça va durer. Là, nous signons le dispositif pour 2 ans. Mais après, l'objectif, c'est de durer le plus longtemps possible et de poursuivre ce maillage du territoire au point de vue prévention et au point de vue sécurité sur l'ensemble de la commune.
Le rôle des référents est de relever les faits inhabituels et collecter des informations, mais évidemment pas de se substituer aux forces de l'ordre. Il s'agit d'un dispositif qui marche de manière ascendante et descendante avec un partage d'informations entre les citoyens et la gendarmerie, explique le colonel Bayarja, commandant en seconde de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
L'objectif, c'est que ce ne soit pas la gendarmerie qui travaille toute seule de son côté, mais vraiment qu'il y ait un échange, une perméabilité entre la population et les gendarmes, de manière à ce que la population ne soit pas apeurée à l'idée d'aller voir les gendarmes. On le constate quotidiennement. La gendarmerie, quand on n'a jamais été confronté en tant que victime, on ne sait pas ce que c'est. Donc on n'ose pas toujours aller voir. Et même pour des faits qui sont minimes, il est important pour nous d'avoir ces remontées d'informations. On a beaucoup de monde sur Dumbéa, on a beaucoup de gendarmes actuellement qui sont déployés. Et quand on oriente nos services, il faut qu'on ait une vision assez globale de la situation. Et c'est pour ça que d'avoir ces référents qui puissent avoir ce contact privilégié avec nous est très important.
Le haut-commissaire Louis Lefranc évoque un symbole important pour la mise en place d'une sécurité durable dans le Grand Nouméa qui a été durement touché par les émeutes du 13 mai et qui reste une zone prioritaire. Cette participation citoyenne permettra également de réduire les délais d'intervention de la gendarmerie, selon Louis Lefranc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voilà, un petit problème technique, on entendra Louis Lefranc dans nos prochaines éditions. Et pour les personnes qui souhaitent devenir référent dans leur quartier, il suffit de se faire connaître auprès de la mairie qui transmet ensuite les candidatures à la gendarmerie. Pour cela, vous avez jusqu'au 26 novembre.
Et donc, vous l'avez entendu, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu en lien avec les exactions de notre question du jour. Pensez-vous que les conditions seront réunies pour la levée du couvre-feu et de toutes les restrictions administratives au moment des fêtes de fin d'année? Si vous pensez que les conditions seront réunies, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. Maintenant, 94% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS ne pensent pas que l'élection d'Emmanuel Tchibaou à la présidence de l'Union calédonienne soit un signe positif pour la recherche d'un accord global. Ils ne sont que 6% à y voir un signe positif. 17h58, on marque une première pause dans ce journal. Dans un instant, on parlera notamment des centres de vacances agréés qui se préparent pour accueillir les enfants pendant les grandes vacances.
C'est la fin d'année et Mobile Nouvelle-Calédonie vous réserve une surprise exceptionnelle. Jusqu'au 15 décembre, Mobile vous offre l'opportunité de remporter un iPhone 16 chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, 4 iPhone 16 à gagner avec un tirage au sort tous les lundis. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Mobile Nouvelle-Calédonie. Abonnez-vous à notre page et jouez dès maintenant. Ne manquez pas votre chance. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Mobile, energy lives here.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal est au fichu.
Et les centres de vacances agréés qui sont inquiets à l'approche des vacances scolaires, ils ne peuvent plus dispenser des formations pour le BAFA et le BAFD. Et nous en avons parlé à midi dans le magazine Citoyen, Jean-François.
Oui, le BAFA, c'est le diplôme national que doit avoir chaque animateur qui intervient dans un centre de vacances agréé. Et le BAFD est le diplôme pour pouvoir diriger un centre. Or, en Calédonie, les centres de vacances qui organisaient ces formations ne sont plus autorisés à le faire, non pas par une décision claire et motivée, mais plutôt par une absence de décision et un imbroglio juridique, a expliqué Christian Canel, le secrétaire général de la CAF.
Ces formations sont toujours restées une compétence de l'État. Mais l'État avait délégué, il y a fort longtemps, à la Nouvelle-Calédonie, la gestion de ces formations, c'est-à-dire les déclarations, les agréments, enfin tout ce qui va avec, puisque chaque formation doit être déposée pour être validée. Donc l'accord qu'il y avait entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, via le service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle DVSNC, cet accord-là ne fonctionne plus. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de postes budgétaires qui ont glissé de l'un à l'autre. Il semblerait aussi que, en France, par exemple, ces formations ont été reprises par l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale a absorbé la jeunesse et sport. ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait tout un tas de difficultés, et comme on sait bien le faire en Nouvelle-Calédonie, on joue sur les compétences en permanence, donc on y va en train de chercher qui est compétent pour faire quoi.
Et cette situation pénalise évidemment les centres de vacances agréés. Elle n'est pas non plus sans conséquence sur les futurs camps cet été. Brieux-Pierre Large est le directeur des villages de Magenta.
Aujourd'hui, les conséquences, en tout cas pour nous, c'est qu'on a du mal à prendre le risque d'ouvrir des formations, puisque samedi, on a annulé une formation avec quand même 14 stagiaires.
Donc ça, c'est des formations vraiment pour que les gens obtiennent ce diplôme. Hein.
Oui, voilà. Exactement. C'est une des étapes de la formation. Donc, on ouvre des formations sans autorisation. Et personne ne sait mesurer le risque que l'on prend, même moi je ne sais pas. Si jamais les formations ne devaient pas se faire, puisque c'est une possibilité, c'est plusieurs centaines d'animateurs et directeurs qui encadrent les vacances des enfants durant l'été et puis durant l'année, mais bon, on va parler de l'été,
oui,
déjà,
on parle de l'été déjà, oui.
Qui ne pourront pas être formés. Et nous, on a une réglementation, la 9CP de 2005, qui nous impose, et c'est tout à fait normal, d'avoir un pourcentage d'animateurs et de directeurs qui soient formés ou en cours. Aujourd'hui, si ces personnes-là ne peuvent pas se former, comment pouvons-nous accueillir les enfants de la Nouvelle-Calédonie durant l'été ?
Une situation très inconfortable pour les organisateurs de centres de vacances qui espèrent qu'une solution au moins provisoire sera rapidement trouvée pour permettre aux camps d'été d'être organisés. Il faudra ensuite mettre en place de nouvelles procédures pour pouvoir organiser ces formations d'un personnel dont les centres de vacances ne peuvent pas se passer.
Et on passe des centres de vacances aux écoles. La commune de Yengen en proie aux fortes pluies depuis deux jours. Des trombes d'eau tombent en continu sur la côte est et dans le nord. À Yengen, les cours d'eau débordent et empêchent la circulation sur la commune. La mairie a donc pris la décision de fermer les écoles publiques. Comme l'explique Jean-Claude Athéa, secrétaire général de la mairie de Yengen, c'est tout le village qui est impacté.
Beaucoup de cours d'eau passent au-dessus des ladiers ou des ponts, et inondés. Et le bac de Weyem est coupé depuis cette nuit à cause de forts courants. Voilà, surtout tout le réseau routier de la commune est débordé et des coupures de route à plusieurs endroits. Tout le village est handicapé. Les entreprises qui travaillent sur la région sont pareilles, parce que la plupart travaillent sur la transversale Yengen-Gomen. Donc les routes sont très très en mauvais état. Et puis avec les inondations, ça complique le maintien des chantiers à l'école et puis la circulation des populations. Donc on a pris la décision de suspendre les transports scolaires par mesure de précaution, de fermer les écoles publiques du village pour la journée d'aujourd'hui et de demain. En fonction des conditions météo, on verra pour une reprise de jeudi.
Ce sont donc les établissements scolaires de Panié, du village de Tiwamak, de Tindo et de Wayaget qui sont fermés jusqu'à jeudi au moins. Les intempéries ne cessent pas pour l'instant. Elles ont d'ailleurs entraîné un blocage du système de captation de l'eau potable qui alimente toute la commune. Les équipes peinent à intervenir car les courants rendent le secteur inaccessible. Les habitants s'abreuvent pour l'instant grâce au bassin d'eau de la mairie, au ravitaillement des pompiers. C'est tout le nord de la Calédonie qui est placé en vigilance jaune, forte pluie. Et donc à noter également que le bac de la YM est fermé jusqu'à nouvel ordre en raison des mauvaises conditions météo sur la région.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Les femmes ont leur place dans le monde entrepreneurial et la province sud les aide à la trouver. Le Nouméa Women's Forum a ouvert ses portes ce matin pour la quatrième année consécutive. C'est donc une série d'échanges, de débats, de partages, d'expériences qui attend les participantes. Avec cette année, une thématique centrale, l'économie sociale et solidaire. Un sujet qui a attiré de nombreuses femmes curieuses d'en apprendre plus sur les dispositifs existants. Certaines sont venues pour partager leur expérience, d'autres simplement pour écouter.
Alors on est venu par rapport à l'économie sociale et solidaire et on est venu simplement écouter des expériences, des échanges, voir si ça peut nous aider en apprendre un petit peu plus sur ce domaine-là qui reste assez flou. Puis là, on voit que c'est quand même quelque chose qui tend à se structurer, à se cadrer.
Je suis vraiment là pour écouter, pour échanger. J'aime beaucoup l'interculturalité de ce Nouméa Women's Forum et tout ce que ça a pu amener depuis 4 ans.
Alors pour moi, c'est un événement à ne pas manquer, qui met les femmes à l'honneur. Je crois fortement en ce projet, surtout après la période difficile que nous avons vécue, et se baser sur une économie qui replace la solidarité au centre de nos actions, je pense que c'est un thème prioritaire. Donc je suis impatiente d'assister aux différents ateliers et aux interventions de certaines de mes collègues.
Le NWF Nouméa Women's Forum se poursuit ce jeudi 28 novembre à la FOL et se terminera vendredi au centre administratif de la province sud. Un événement organisé par Naya Wateu, présidente de la commission développement économique à la province, qui sera d'ailleurs notre invitée de la matinale demain à 7h30. On reste à Nouméa avec une info pratique. La circulation est de nouveau ouverte rue d'Austerlitz. Une réouverture temporaire et partielle. Cet axe étant actuellement non utilisé par le néobus, la rue d'Austerlitz est désormais accessible en sens unique entre Alma vers Jaurès et Alma vers République. Dès l'installation de la signalisation, une troisième portion ouvrira entre la rue de Verdun et la rue Anatole-France. Autre information, en bref, l'immobilisation du Betticho qui est prolongée en raison d'une avarie technique survenue à bord du navire. La compagnie vient d'annoncer qu'elle était contrainte d'annuler toutes ses rotations jusqu'au dimanche 8 décembre inclus. Jour de commémoration à Bouraille, il y a 250 ans, en 1774, le navigateur britannique James Cook débarquait en Calédonie à bord du HMS Résolution, un navire que la commune a décidé de mettre à l'honneur en le peignant sur les murs du cinéma Paul Cadupré. La fresque était inaugurée ce matin en présence du maire de la ville, Patrick Robelin.
C'est vraiment historique, hein. C'est-à-dire que sur le parvis du cinéma, là où il y a toujours beaucoup de gens qui viennent, où il y a des apéros qui sont organisés, lorsqu'il y a des films, il y a des débats sur le côté et tout, ça permet à tous les visiteurs de venir et de découvrir une partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie étant une île, toutes les personnes qui sont arrivées sont fortement arrivées à l'époque par bateau. Et c'est une façon de rappeler à tous les visiteurs une partie de l'histoire maritime de la Nouvelle-Calédonie.
Et ce sont les mains de l'artiste Bouraille Guitou qui sont derrière cette fresque avec le HMS Résolution. Il a déjà peint la Monique et l'Iphigénie. Et la série continue prochainement. Le cinéma sera peut-être peint aux couleurs d'un navire de la Seconde Guerre mondiale ou bien d'une pérogue mélanésienne. Une nouvelle cérémonie de remise de diplôme ce soir à l'UNC qui a démarré il y a un peu plus d'une demi-heure. L'Université de la Nouvelle-Calédonie remet les diplômes à 9 étudiants de l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. 18h07, dernière pause dans ce journal avant d'évoquer notamment l'actualité dans la région Pacifique. L'ambassadeur de Chine à Canberra qui invite l'Australie à la prudence dans ses relations avec la future administration américaine.
Un million de francs en bon d'achat à gagner sur RRB. Pour jouer, envoyez maintenant RRB au 40-20.
Tirage au sort le 30 novembre parmi tous les SMS.
Un million en bon d'achat à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. Sans oublier les 100 000 francs de bon d'achat qui continuent de tomber chaque semaine. Alors n'attendez plus, RRB au 40-20.
371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flick Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flick Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flick Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal est au fichu.
Et donc, comme je le disais, l'actualité à la une dans la région Pacifique, c'est l'ambassadeur de Chine à Canberra, Xiao Jiang, qui a invité l'Australie à la prudence dans ses relations avec la future administration américaine. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Xiao Jiang a jugé nécessaire de mettre en garde l'Australie contre tout risque susceptible de compromettre les liens qui unissent Pékin à Canberra, des liens, a-t-il rappelé, qui se sont récemment stabilisés après être resté gelé pendant quelques années. Il a notamment appelé le Premier ministre australien Anthony Albanese à maintenir la trajectoire de nos actuelles relations bilatérales, alors que Donald Trump se prépare à lancer une nouvelle guerre commerciale contre Pékin. Il n'y a aucune raison pour que nous compromettions nos intérêts nationaux respectifs au profit d'un tiers, a déclaré l'ambassadeur. Je me réjouis de voir qu'une relation constructive et productive existe entre la Chine et l'Australie, indépendamment de ce qui se passe dans d'autres parties du monde, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Et on termine donc ce journal avec les sports et du football. La fin ce soir du trophée du Grand Nouméa qui rassemble 9 équipes de Super League et de PH depuis la fin août. Ce soir, Horizon Passau affronte Melec. Le match a débuté à 18h. Et enfin, Magenta sera opposé au Mont-d'Or à 19h45. Ce sont les deux derniers matchs de ce tournoi amical. Et à l'issue de ces rencontres, on connaîtra le nom des vainqueurs, Horizon Passau ou Magenta, puisqu'au classement, Magenta possède 3 points d'avance sur Horizon. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et encore de la pluie attendue cette nuit, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, sur l'ouest, des averses persisteront en soirée, puis de belles éclaircies se développeront. Sur les autres régions, les nuages domineront, ils s'accompagneront d'averses localement nombreuses et parfois modérées sur la côte est, plus éparse ailleurs. Sur l'ouest, le vent moulira autour de 5 nœuds, ailleurs l'alizé d'est-sud-est moulira légèrement et soufflera généralement entre 15 et 20 nœuds, localement autour de 15 nœuds sur le nord-est. Les températures minimales resteront très douce de 22 à 25 degrés et localement 19 à 21 degrés, ce sera à l'intérieur des terres. Demain matin sur l'ouest, le soleil sera tout d'abord voilé, puis des nuages bas issus du relief viendront le contrarier. Ailleurs, les nuages conserveront un large avantage. Sur la façade est et la pointe nord, ils dépendront de régulières averses, localement plus marquées sur le sud-est. Sur les autres régions, les ondées seront plus isolées. Sur l'ouest, le vent d'est à sud-est soufflera de 5 à 10 nœuds. Ailleurs, il sera d'est entre 15 et 20 nœuds, localement 10 à 15 nœuds, ce sera sur le nord-est.
Merci Nicolas pour toutes ces précisions. On se retrouve à 19h pour un dernier point sur l'actualité. En attendant, place au journal d'Europe 1, puis à 18h30, l'interview d'Europe 1. Ce soir, Sonia Mabrouk reçoit Christian Estrosi, le maire de Nîmes et vice-président d'Horizon.